Donc, c'est aujourd'hui le premier module de l'école des fondements. Et ce premier module-là est basé sur la faveur de Dieu. Alors, qu'est-ce que la faveur de Dieu? Nous entendons souvent parler de la faveur de Dieu et chaque fois nous-mêmes nous demandons au Seigneur de nous accorder la grâce et la faveur de faire certaines choses. La faveur de Dieu est une grâce imméritée qui répand sur nous toutes sortes de bénédictions de Dieu. Toutes sortes de bénédictions que Dieu a prévues pour nous dans les lieux célestes, telles que Paul a écrit aux Éphésiens. Et cette faveur-là dévance celui sur qui elle vient pour préparer le chemin, pour préparer le terrain et lui servir d'échelle pour atteindre ses objectifs, pour atteindre le sommet. Le terrain que cette faveur-là prépare pour nous est notre terrain de foi, est notre terrain dans notre mariage, est notre terrain dans toutes les activités qu'une personne peut mener pour grandir, pour témoigner de la faveur de l'Éternel. Alors, je dirais que lorsque cette grâce imméritée est sur vous, vos ennemis se prosternent devant vous. Vos ennemis sont assujettis à votre autorité parce que Christ est en vous. Et dans cette faveur divine qui vient directement de Dieu lui-même, cette faveur nous transforme définitivement en tant qu'hommes. Comme cette faveur a transformé la vie de Joseph, a transformé la vie de Daniel, a transformé la vie de David. Quand cette faveur descend sur nous, comme le quart de Joseph, en une nuit, Joseph a quitté la prison pour atteindre le palais royal. Quand cette faveur imméritée, quand cette faveur de Dieu est descendue dans la vie de Daniel, il a passé une seule nuit dans la fosse des lions, mais sa finalité était le palais royal. Lorsque nous regardons David qui était tout petit, lorsque cette faveur imméritée de Dieu, cette faveur à nul autre pareil est descendue sur la vie de David, David qui était un tout petit berger est devenu une célébrité dont parle la Bible. Et Dieu est allé jusqu'à dire que David est l'homme selon son cœur. C'est cette faveur imméritée de Dieu-là qui était sur la vie de David et qui fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et cette faveur divine nous assure le succès dans tous les domaines de notre vie. Comme je l'ai dit précédemment, cette faveur nous accordera l'accès au mystère de Dieu. Lorsque vous êtes dans la faveur, dans la grâce de l'Éternel, vous avez accès à ces mystères, accès à ces révélations, accès à tout ce qui est dans le royaume de Dieu. Vous passez dans une autre dimension. Le ciel est ouvert sur votre tête et vous pouvez recevoir toutes sortes de bénédictions. La main de l'Éternel est sur vos vies. Et cette faveur imméritée vous fait faire des choses grandioses que le monde ne peut pas faire. Cette faveur, lorsqu'elle est sur votre vie, des gens se dépêchent de vous servir. Ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont en train, ils ont le zèle de vous servir. Mais c'est la grâce et la faveur de Dieu là qui agit sur vous. Et comme toute grâce exceptionnelle attire une faveur exceptionnelle dans la vie. Lorsque vous avez une grâce imméritée, ça attire sur vous une faveur. La grâce, c'est quand vous rentrez, vous bénéficiez des dons de quelqu'un. Et parce que vous êtes déjà sous cette grâce, la faveur de cette personne est sur vous. Et c'est parce que vous entrez dans les grâces, par exemple, je donne l'exemple d'un collaborateur, lorsqu'il rentre dans, il bénéficie de ma grâce, il entre dans mes faveurs, je peux lui faire des faveurs. Lorsque je prends, par exemple, le cas de quelqu'un qui travaille, un collaborateur, je prends le coordonnateur du club, par exemple, lorsqu'il a pu gagner la grâce qui est en moi, lorsqu'il a pu gagner ma confiance, ma faveur ne peut que se refléter sur sa vie. Et cette faveur-là, c'est quand, par exemple, il a un petit problème, je peux lui venir en aide. Parce que ma faveur, par ma grâce, il a reçu cette faveur de bénéficier de tout ce que j'ai. Alors, si nous avons cette faveur-là de Dieu, nous accédons à cette faveur-là de Dieu, nous voulons avoir cette faveur-là de Dieu, il nous faut des clés pour accéder à cela. Et je dis que cette faveur est imméritée. Il n'y a pas ce qu'un homme peut faire pour mériter la faveur de Dieu. Il n'y a pas d'évangélisation à faire pour mériter cette faveur. Il n'y a pas de tâche à accomplir pour mériter cette faveur. Cette faveur-là, elle est imméritée. Elle nous vient directement lorsque nous rentrons sous la grâce. Alors, quelle est cette grâce? Jésus-Christ est notre grâce. Cette grâce-là, c'est Jésus-Christ à la croix qui s'est sacrifié pour nous donner plein pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous avons cru en Dieu dans notre cœur, parce que nous avons confessé que Jésus est le maître absolu de notre vie, parce que nous avons décidé de nous laisser entièrement à lui, alors cette grâce attire cette faveur sur nous. Mais comment peut-on faire alors pour attirer véritablement cette faveur que de Dieu, cette faveur divine dans notre vie? Nous aurons à voir plusieurs clés. Nous aurons 6 clés à voir. Et comme première clé, nous avons le fait de devenir un ami de Jésus-Christ. Les clés pour bénéficier de la faveur de Dieu, comme première clé, nous avons être ami de Jésus-Christ. Alors, la confession de foi et le baptême. Parce qu'en même temps, dans l'école de fondement, nous avons des nouveaux baptisés qui constituent d'ailleurs la première promotion de cette école de fondement. Et du coup, on se dit, j'ai fait ma confession de foi, j'appartiens à Christ, je suis passé dans les eaux du baptême, je pense que je mérite cette grâce. Non, cette faveur-là ne nous vient pas de ce fait-là. Mais cette faveur de Dieu se développe dans une grande communion et amitié avec Dieu. C'est ce qui est le plus important pour avoir accès à ces mystères-là. Cette première clé qui est de devenir un ami de Jésus, c'est de faire la volonté de Christ. Mais comment faire alors la volonté de Christ? Dans le livre de Jean 15, versets 14 au 15, qui dit ceci, nous allons essayer de lire. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. C'est Jésus qui dit ceci dans le livre de Jean 15, 14, du verset 14 au 15. Il dit que si nous faisons sa volonté, si nous obéissons à sa parole, en ce moment-là, nous sommes ses amis, nous ne sommes plus ses serviteurs. Parce qu'un serviteur a des limites. Un serviteur qui est sous son maître, il ne peut pas faire certaines choses devant le maître. Parce qu'étant serviteur, il ne peut pas, par exemple, accéder à la chambre de son maître sans son avis. Quand vous êtes serviteur, vous ne pouvez pas prendre un objet de votre maître sans son avis, sans qu'il ne vous autorise. Alors Jésus dit qu'il veut que nous passions du statut de serviteur pour venir maintenant au statut d'ami. Parce qu'un ami, lorsque je veux passer la voiture d'un ami, je lui dis, écoute, ah, mon cher ami, je suis en train d'aller quelque part là, merci de me passer ta voiture. Et je prends sa voiture, je peux y aller. À un ami, on ne peut pas refuser certaines choses. Mais à un serviteur, il ne peut pas franchir certaines limites vis-à-vis de son maître. Alors Jésus veut nous faire entrer dans son intimité. Et dans cette intimité-là, il peut nous révéler les choses cachées. Dans cette intimité-là, Jésus peut nous dire, peut nous révéler les choses à venir. Il peut nous dire ce auquel nous pouvons être confrontés. Jésus va nous dire, il va nous révéler son grand secret et entre nous, il y aura une grande fidélité et intimité. Et c'est ainsi qu'on dit, le seul ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne parviens pas à devenir ami de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la clé pour accéder maintenant à cette faveur imméritée. Parce qu'en tant qu'ami, si tu deviens ami de Jésus-Christ, donc obéissant à sa parole, donc restant en intimité avec lui, il peut déjà te révéler où est le reste des clés pour accéder à cette faveur imméritée qui fait de toi un enfant de Dieu. Et c'est cette faveur imméritée-là qui nous fait entrer dans notre destinée surnaturelle. Parce qu'un homme ne peut pas vivre que de sa destinée naturelle. Et précédemment, j'ai dit la destinée naturelle, c'est aller à l'école, c'est devenir un médecin, c'est faire telle chose, le faire bien. Ça, c'est la destinée naturelle. Mais la destinée surnaturelle, c'est rentrer dans le plan de Dieu. C'est avoir sur soi la gloire de l'Éternel. Et quand la gloire de Dieu rayonne sur la vie de quelqu'un, tout lui est facile. Tout est abordable pour lui. Toute épreuve lui est facile. Parce qu'il peut tout par celui-là qui le fortifie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, avec qui il est ami. La deuxième clé pour accéder alors à cette faveur divine, c'est la sanctification. La sanctification est très importante pour quelqu'un qui vient dans la foi, pour quelqu'un qui commence sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne pourras rien avoir avec le Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ, il est exempt de tout péché. Et quand un homme pêche, ça voudrait dire qu'il y a un mur qui s'élève entre cet homme et Dieu. Cet homme n'a plus accès à Dieu. Cet homme ne peut plus voir Dieu. Et si la main de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, cette vie est régie simplement par des échecs. Alors, la sanctification. Beaucoup de chrétiens pensent que la sanctification, ce n'est simplement le fait de ne pas forniquer, le fait de ne pas faire l'adultère. Non! La sanctification est bien plus grande. La sanctification concerne toutes sortes d'impudicités que vous devez abandonner. Si vous voulez être des chrétiens sanctifiés, vous voulez être des chrétiens nés de nouveau qui vivent dans la sainteté de Dieu, vous devez pouvoir abandonner toutes sortes d'impudicités. L'impudicité, c'est l'escroquerie. L'impudicité, c'est le vol. L'impudicité, c'est le mensonge. L'impudicité, c'est l'adultère. L'impudicité, c'est la fornication. L'impudicité, c'est la convoitise. L'impudicité, c'est tout ce qui a trait au péché. Ce n'est pas que la fornication et l'adultère. Si tu penses que c'est seulement la fornication et l'adultère, tu vas peut-être essayer de te sanctifier sur ce point-là, mais le reste des points, tu ne pourras pas véritablement t'en sortir. Parce que la Bible nous dit que lorsque Christ reviendra, il n'y aura pas d'impudique dans sa maison. Il n'y aura pas d'impudique dans son royaume. Il n'y aura pas d'impudique qui restera avec lui côte à côte au ciel. Il veut des êtres sanctifiés. Et en ce sens-là, si tu n'es pas sanctifié, le diable ne peut pas te respecter. Le diable ne peut jamais avoir peur de toi. Parce que le diable n'aura peur de toi que lorsque en toi, il n'y a rien de lui. Si en toi, il y a la fornication, il y a le vol, il y a le mensonge, tu ne peux pas tenir ferme debout devant le diable et parler. Le diable va te gifler. Il ne peut pas avoir peur de toi parce que pour lui, tu es un support qu'il utilise. Parce qu'il a ces petits démons qui sont en mission dans ton corps, dans ta vie. Donc tu ne peux pas ordonner au diable de partir, il va partir. Si tu n'es pas sanctifié, si tu vis dans l'impudicité, la maladie ne peut pas te respecter. Ton corps sera le temple de la maladie. Parce que la maladie vient du fait qu'on n'obéit pas à certaines lois de Dieu. La maladie vient du fait que certaines choses que nous faisons ne nous amènent pas dans l'intimité de Dieu. La maladie ne pourra pas te respecter. Et si tu n'es pas sanctifié, c'est que tu marches dans une vie souillée. Et quand tu marches dans une vie souillée, ton corps n'est plus le temple de l'Éternel. Alors, tous les chrétiens veulent aujourd'hui avoir dans tous les compartiments de leur vie des dons, mais ne veulent jamais respecter le donateur. Si tu n'as pas le donateur, si tu n'es pas en intimité avec le donateur, tu ne peux rien avoir de lui. C'est comme quand, par exemple, on dit l'État aide les défavorisés à faire un peu de commerce, aide pour le panier de la ménagère, des femmes à recevoir des prêts, des dons, par exemple, de 30 000, payables sur plusieurs mensualités.
Si tu refuses
de faire ce que le chef de l'État dit pour mériter ce don-là, tu ne pourras pas l'avoir. Si tu ne te conformes pas aux règles d'une administration, tu ne peux pas intégrer cette administration et travailler. Si dans une administration, on demande de faire les choses d'une certaine manière, si toi tu refuses d'accéder à cette vision, tu ne peux pas avoir les bénéfices liés à cela. Mais pourquoi est-ce que le monde veut aujourd'hui avoir des dons, à bénéficier de toutes sortes de bénédictions de l'Éternel, mais de ne pas se faire ami ou de ne pas se conformer aux lois de l'Éternel? Il faut forcément que l'on se confère alors à cette loi de l'Éternel pour bénéficier de toutes les grâces de l'Éternel. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, car sans elle, il n'y a pas de faveur divine. Et si nous allons dans le livre de Psaume, du Psaume 24, verset 23, du verset 3 au 4, dans le livre des Psaumes, nous allons essayer de lire. Psaume 24, du verset 3 au 4, qui dit ceci. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? C'est une question, David demande, mais qui peut tenir dans le temple du Seigneur? Qui est celui-là qui peut aller sur la montagne du Seigneur? Et il dit, ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper, seuls ceux qui ont les mains pures, seuls ceux qui mènent une vie de sainteté et de sanctification, seuls ceux qui ont abandonné les mauvaises voies, seuls ceux-là peuvent monter à la montagne sainte, peuvent entrer dans le temple saint de l'Éternel. Ces gens-là peuvent le servir. Alors, si tu pouvais simplement avoir ta sanctification, garder cette sanctification-là, tu peux accéder à cette faveur. Tu peux entrer dans les bonnes grâces qui attirent sur toi cette faveur divine. Nous allons voir comment Daniel a pu se sanctifier pour bénéficier de cette faveur divine. Si nous allons dans le livre de Daniel, Daniel 1, du verset 8 au 9. Nous serons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, du verset 8 à 9. Daniel chapitre 1, du verset 8 à 9. Daniel était en captivité. Et il était avec ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego. Mais le roi a demandé qu'on les mette quelque part, qu'on les nourrisse du repas royal, de ce que le roi lui-même mange dans son royaume, afin qu'ils puissent être des gens bien trapus, bien gras. Parce que le roi pensait que seule la nourriture mangée dans son palais, la nourriture bien préparée, la nourriture, comme on dit aujourd'hui, la nourriture des riches, peut les amener à être gras, à grandir, à être trapus pour pouvoir bien faire des travaux champêtres dans ce royaume-là. Mais voilà ce que le roi pense. Mais voilà ce que Daniel fit. Dans le premier livre de Daniel, alors du 8 au 9, Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors, il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Dieu permet que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. Daniel a dit qu'il ne veut pas manger la nourriture du roi pour être impur. Est-ce que c'est la nourriture préparée dans le royaume qui est impure? Ou bien, est-ce que c'est les constituants de la nourriture préparée dans le royaume qui est impure? Ou qu'est-ce que Daniel veut nous dire par là? Daniel sait, et on a parlé du jeûne lors des enseignements précédents, que le jeûne en réalité n'est pas pour nous, ne représente pas pour nous Dieu. Ce n'est pas le jeûne qui crée les ossements à nos prières. Ce n'est pas le jeûne qui nous donne des grâces et des faveurs. Mais le jeûne est un moyen pour être purifié de toutes choses, pour être léger, afin de pouvoir élever nos voix dans la présence du Seigneur. Mais beaucoup de gens font erreur. Beaucoup de gens pensent que c'est le jeûne en soi qui nous donne ce que nous voulons. Non, ce n'est pas le jeûne qui nous donne ce que nous voulons. Le jeûne est un moyen pour accéder à ce que nous voulons, demander à Dieu. Et c'est pourquoi Daniel va dire, je ne veux pas être impur. Être impur, c'est quoi? Lorsque vous mangez gras, lorsque vous mangez vitaminé, lorsque vous remplissez votre ventre, vous ne pouvez pas prier. 5 minutes dans la présence de Dieu et puis on commence par dormir. 5 minutes dans la présence de Dieu, on commence par ronfler. Parce que vous avez mangé des choses qui vous ont rendu assez lourd pour être éveillé spirituellement, pour être léger physiquement, afin d'ouvrir votre bouche et de rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est pourquoi Daniel va dire, non, Dieu là, il nous a dit de manger des fruits.
Il sait que ce que nous mangeons là, c'est des choses qui peuvent nous empêcher d'être éveillés, d'être attentifs. Alors, il faut manger des fruits. Et c'est aujourd'hui que la médecine s'est réveillée, très très loin après, pour nous dire aujourd'hui que les régimes faits aux fruits, lorsque nous mangeons des fruits, ça nous aide beaucoup, ça aide le corps et ça nous évite beaucoup de maladies. Mais c'était écrit depuis dans le livre de Daniel, c'était écrit depuis l'Ancien Testament. Mais les gens n'avaient pas compris. On dit souvent que oui, je suis à l'aise, je suis un chrétien béni, je dois manger à ma faim, je dois manger à satiété, je dois boire comme je veux, c'est mon plaisir, c'est pour bénir le Seigneur. Non, mon frère, le Seigneur te l'a donné, mais il n'a pas demandé d'exagérer dans ce qu'il nous a donné. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas manger, tu vas vieillir avant le temps. C'est là où on voit des gens à 30 ans qui sont déjà complètement vieilles. Vous voyez des femmes, surtout des femmes qui sont vieilles. Et quand vous les voyez, vous n'avez aucune envie de vous en approcher. Vous n'avez, tout vous paraît bizarre en cette personne. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Parce qu'ils ne suivent pas leur alimentation. Un chrétien doit être celui qui vit. Celui en qui il y a la vie abondante. Celui qui porte réellement les bénédictions de l'Éternel. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur nos vies. Donc notre santé aussi chaque matin doit être renouvelée. Mais si nous restons dans les choses impures, quand vous voyez par exemple un jeune, il y a des gens que vous rencontrez, mais on ne dirait même pas qu'ils sont jeunes. Ils vous disent, j'attends mon mariage. Mais vous êtes étonnés parce que pour vous, ils ont déjà dépassé l'âge même d'attendre. Ce n'est pas que l'Éternel ne peut pas permettre que quelqu'un atteigne un certain âge avant d'avoir son mari. Ce n'est pas qu'il y a un âge prédéterminé pour le mariage. Mais quand même, on doit être frais. Quand vous les voyez, il faut que ces gens-là soient frais. Et la plupart du cas, quand moi je rencontre, par exemple, des gens, ils me donnent toujours moins de mon âge. Mais je me rends compte que c'est la faveur et la bonté de l'Éternel qui est sur ma vie, qui me rajeunit chaque matin. Parce que l'Éternel, comme l'aigle royal, chaque matin l'Éternel renouvelle la force de l'aigle royal. L'aigle royal, chaque matin, vole encore plus loin que le lendemain. L'aigle royal ne vieillit pas comme ça. Et c'est pour cela que je dis, en Jésus-Christ, je suis l'aigle royal. Parce que chaque matin, le Seigneur renouvelle mes forces. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ma vie. Et il est écrit dans la Bible, je ne sais même plus de qui il s'agissait. La Bible dit que l'Éternel, chaque matin, il avait le visage d'un bébé, le visage d'un enfant, parce que l'onction de l'Éternel était sur sa vie. Et ce que le Seigneur avait prévu pour nous, au temps des Noé et consorts, des gens vivaient des centaines d'années. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vit, ou du moins jusqu'à 100, 105 ans, vous-même quand vous voyez, on se dit que ça là, c'est un cadavre debout. Parce qu'il n'y a plus de vie en cette personne. Mais l'Éternel doit nous rassasier de jour. Et quand vous voyez des gens qui mènent leur vie dans la débauche, quand vous dites « je suis chrétien », que vous venez à l'église, vous êtes droit. Tout le monde crie « Amen », vous criez « Amen ». Tout le monde dit « Alléluia », vous criez « Alléluia ». Et à l'église, vous avez un manteau d'enfant de Dieu. Mais quand vous sortez de l'église, vous enlevez ce manteau-là. Et c'est vous qui forniquez. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune fille, vous êtes jeune garçon, et puis déjà à 20 ans ou à 21 ans, vous avez connu 10 hommes, vous avez connu 50 hommes. Comment voulez-vous mener votre vie de sainteté alors? On dit « je suis chrétien né de nouveau », mais c'est nous qui courons encore derrière le pasteur, parce que nous voulons coucher avec pour avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas une vie de chrétien. Vous êtes jeune, et puis vous ne travaillez pas, vous ne faites rien, vous demeurez dans la paresse. Et au finish, votre vie, sur votre vie, vous avez le fardeau de l'échec. Le fardeau de l'échec qui pèse sur vous. Et vous voyez des gens, ils vous disent, « Bon, je n'ai que 25 ans. » Mais quand tu le vois, il est vieux. Parce que le fardeau de l'échec est sur son dos. Le joug du monde est sur lui. Il porte sur lui le joug du monde. Non, comme Daniel, nous devons pouvoir dire, « Je veux mener une vie de pureté. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux abandonner les mauvaises voies. » Tu es chrétien, mais le mensonge est pour toi une seconde nature. Et comme tu le dis aussi, « Je ne peux pas abandonner tout de suite parce que j'étais comme ça depuis. Le Seigneur va me changer. » Oui, le Seigneur va te changer. Mais je vous ai parlé de la volonté et des envies. Si tu as la volonté de changer, tu peux demander à Dieu, Dieu va te changer. Si tu as la volonté de changer, tu vas commencer par abandonner certaines choses pour que le Seigneur puisse agir en toi, pour que par son esprit, il te donne la capacité de pouvoir accomplir ce que tu as décidé de faire, ce que tu es résolu à faire. C'est pourquoi la Bible nous dit, à nos résolutions répondra le succès. Ce n'est pas à nos envies, ce n'est pas à nos rêves, mais à nos résolutions. La résolution, c'est de prendre la décision, de dire, je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la pureté, je veux faire ce qui est agréable à Dieu, je veux mener ma vie comme on regarde un miroir. Je veux pouvoir chaque matin me mirer dans la parole de Dieu pour voir si je suis encore conforme par rapport à tout ce que l'Éternel nous demande de faire. Et lorsque tu arrives à atteindre ce niveau-là, tu pourrais avoir ta deuxième clé qui t'amène directement dans la faveur divine. Et la troisième clé, nous avons la source de bénédiction. Être une source de bénédiction. Nombreux sont les chrétiens qui ne savent pas bénir les autres. Et quand on parle de bénédiction ici, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas que de l'argent. Tu peux bénir quelqu'un avec de l'argent. Tu peux bénir quelqu'un avec tes talents. Tu peux bénir quelqu'un avec ton temps. Tu peux bénir quelqu'un avec ton don. C'est pour cela que les dons que l'Éternel nous donne sont des dons à utilité commune. Si tu as un don que tu ne peux pas l'utiliser de façon commune avec quelqu'un, tu n'as rien. Ton don est infructueux. Il faut fructifier ce don. Si tu veux être une source de bénédiction, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être source de bénédiction pour quelqu'un. Dans ta maison, tu es chrétien né de nouveau. Tu es chrétien qui connaît le Seigneur. Tu veux marcher avec Dieu. Mais dans ta maison, tu as fini de préparer une marmite de riz. Tu es seul avec ton enfant ou avec ton mari. Seul avec ton enfant et ton mari, vous êtes trois. Et tu as préparé deux mesures de riz. Mais quand tu as fini, la voisine est là à côté. La voisine ne connaît pas le Seigneur. La voisine n'est pas chrétienne. Mais tu la vois en train de souffrir. Et chrétien, tu mets ton riz dans ta cuisine, tu fermes ta porte et puis tu vas à l'église. Et tu reviens, tu manges un peu. Ou du moins, il y a d'autres encore, quand tu finis là, c'est que ça reste là jusqu'à ça pourrit. Ça fait des années au frigidaire. Mais quelqu'un est à côté de toi, chrétien. Quelqu'un, une terre fertile, quelqu'un qui a une terre fertile est à côté de toi. Pour que tu puisses semer afin de pouvoir récolter encore ailleurs. Mais tu refuses de semer dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu ne sèmes pas dans la vie de quelqu'un, tu ne peux rien avoir. Si vous voulez que Dieu vous fasse entrer dans ses grâces, montrez alors de l'entrain et du zèle pour son royaume. Si tu es chrétien, tu vas me dire que je n'ai rien pour donner, pour bénir quelqu'un à celui qui n'a rien. On lui arrachera le peu qu'il a, mais à celui qui a un peu, on lui donnera encore davantage. Tu es chrétien, peut-être que tu n'as pas de l'argent pour bénir quelqu'un, tu n'as pas de l'argent pour aider quelqu'un, tu n'as pas de temps pour aider quelqu'un. Mais va faire au moins l'évangélisation. Si tu évangélises quelqu'un, tu as une source de bénédiction pour quelqu'un. Et quand je parle à mes étudiants de l'école de fondement qui sont assis devant moi, qui ne peuvent pas annoncer l'évangile à une seule personne dans leur famille, qui ne peuvent pas annoncer l'évangile à une seule personne autour d'eux, je me demande, qu'avez-vous alors à sacrifier? Qu'avez-vous alors en main? Quelle terre avez-vous pour semer quelque chose afin de pouvoir récolter? C'est la grande question. Quand nous allons dans le livre de 1 roi 17, 8, que nous allons lire très très rapidement, 1 roi, Alors le Seigneur adresse sa parole à Élie. Il lui dit, « Pars, va dans la ville de Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il appelle et lui dit, « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » La femme part en chercher, mais Élie la rappelle et dit, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui dit, « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser deux morceaux de bois, puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons ensuite, nous mourrons. » Élie répondit à la femme, « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et tu me la porteras ensuite. Tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. Dans le bol, la farine ne manquera pas. Dans le pot, l'huile ne diminuera pas. Pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. » La femme va faire ce qu'Élie lui a demandé et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas, dans le pot, l'huile ne diminue pas, comme le Seigneur l'a dit par la bouche d'Élie. Alors, nous voyons un exemple de comment être une source de bénédiction pour quelqu'un. Comment Dieu a nourri Élie et la veuve de Sarepta. Cette veuve-là n'avait plus rien du tout. Elle avait une poignée de farine et un peu d'huile. Et elle dit, si je finis de manger ça là, c'est la mort. Aujourd'hui, l'Éternel permet que tu aies une terre fertile pour semer dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit que chaque jour se suffit. Chaque jour se suffit. Et le Seigneur nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, dans sa prière que nous avons reçue du Père, qui est le notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que le quotidien est mis au carré. Donne-nous ce jour notre pain quotidien. Ça veut dire que chaque jour, nous aurons ce que nous aurons à manger. Mais là, toi, tu as de l'argent, tu as un présent. Quelqu'un en a besoin. Et tu sais que sans cela, cette personne-là va mourir. Mais tu refuses de semer dans sa vie. Tu dis, ah, ça, c'est le dernier billet du mois. Je ne blague pas avec. Je ne partage pas avec toi. Quelqu'un, par exemple, a vu sa maison brûler, a vu sa chambre brûler, a vu ses habits brûler, a vu tout ce qu'il possède brûler. Mais toi, tu viens de faire une nouvelle tenue. Alors que tu en avais plusieurs d'autres. Et tu vois cette personne, tu dis, je ne peux pas lui donner ma nouvelle tenue. Ou du moins, je ne peux même pas lui donner ce que j'avais avant. Parce que c'est ça que j'ai prévu de porter dimanche. Ça, je ne peux pas donner. Tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Et tu veux rentrer dans la faveur de Dieu. Tu veux mériter la grâce de l'Éternel. Mais tu refuses de semer dans la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui a permis que cette veuve-là devienne riche. Si Dieu ne s'était pas révélé à cette femme-là, si Dieu ne veut pas que la bénédiction vienne dans la maison de cette femme-là, il ne peut pas envoyer Élie. Élie était le porteur de la bénédiction. Et cette veuve-là, il fallait qu'elle sacrifie maintenant tout ce qu'elle avait. La dernière poignée de farine qu'elle avait, il fallait qu'elle donne ça à Élie. Pour que Élie puisse maintenant la bénir, pour que l'Éternel puisse avoir les coudées franches pour la faire récolter abondamment plus que ce qu'elle a semé. Parce que quand nous prenons une graine, prenons les grains de maïs, que nous mettons sous terre, quand nous mettons par exemple 50 grains sous terre, lors de la récolte, nous prenons des milliers de grains. Ça s'accroît à telle enseigne qu'on ne peut plus se rappeler de quelques grains que nous avons semés. C'est ainsi que la bénédiction, nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Quand le peu que tu as, Tu le sèmes dans la vie de quelqu'un. Tu le sèmes dans l'œuvre de l'Éternel. Tu le sèmes pour le royaume du Seigneur. Tu le sèmes pour évangéliser. Le peu de paroles que tu as, tu dis, je ne suis pas encore mature dans la foi. Je ne peux pas annoncer l'évangile à quelqu'un. Le peu que tu as déjà appris ici, au Club Jésus pour réussir. Et ce peu-là encore est assez lourd. Si simplement tu peux le semer dans la vie de quelqu'un, tu vas récolter en abondance. Et c'est pourquoi chaque fois je donne cet exemple en disant, je bénis le Seigneur. Un jour j'ai dit, Seigneur, j'évangélise mais les gens ne viennent pas à toi. J'évangélise mais ça ne marche pas. Comment veux-tu alors que j'évangélise? Et à travers un enseignement d'un homme de Dieu, ils nous ont dit, demandez à l'Esprit de Dieu de vous accompagner, de vous envoyer là où il y a les bonnes terres, afin que vous semez la parole pour récolter à cet endroit. Et quand je l'ai compris, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'évangéliser quelqu'un qui va faire le double ou des myriades de personnes, qui va évangéliser le monde entier. Ce que je ne peux pas faire, ce que je n'ai pas encore habileté à faire. Mais le Seigneur m'a exaucé. Parce que quand Dieu a dit à Moïse, va et délivre le peuple, Moïse dit à Aaron, dit à Dieu, je ne sais pas parler. Moi, je ne peux pas me mettre devant le peuple et parler. Tu sais que je n'ai pas la langue déliée. Je ne peux pas le faire. Mais quand le Seigneur a vu que Moïse avait des choses en lui qui l'empêchaient de pouvoir délivrer le peuple, de pouvoir parler au Pharaon, il lui a dit, ne t'inquiète pas, Moïse. Je suscite Aaron, ton frère, pour parler au peuple, pour parler à Pharaon. Et là, Moïse et Aaron sont partis et ils ont délivré le peuple. Mais j'ai dit, Seigneur, permets alors que j'aie un Aaron avec moi qui va évangéliser, un Aaron qui va amasser des trésors dans ton royaume, un Aaron, parce que Aaron, lui, au moins, il sait parler, mais lui n'écoute pas Dieu. Il ne sait pas écouter Dieu. Dieu ne parle pas avec Aaron. Dieu parlait avec Moïse. Dieu donnait des révélations à Moïse. Dieu s'est révélé dans le feu à Moïse, pas à Aaron. Alors, ça veut dire que Aaron aussi a une certaine capacité. Moïse aussi a une capacité, mais ils ont tous des faiblesses. Alors, Moïse a dit à Dieu, voici ma faiblesse, mais aide-moi à surmonter cette faiblesse-là. Et Dieu a suscité Aaron. Et c'est ainsi que j'ai dit, Seigneur, je sais que je peux intercéder. Je sais que je peux parler, mais moi, je n'ai pas encore le verbe, je n'ai pas encore la capacité de me tenir devant des foules pour annoncer l'évangile. Et je sais que tu vas m'amener à cette dimension-là. Mais avant, je ne peux pas rester les bras croisés. Suscite pour moi celui que je vais évangéliser pour évangéliser des myriades. Et c'est ainsi que j'ai évangélisé celui qui aujourd'hui le Seigneur m'a donné encore comme époux. Et il en fait plus que je ne pouvais le faire. Au moins lui, parce qu'il est un intellectuel, il peut parler, il peut annoncer, il connaît la mentalité des intellectuels, il peut annoncer l'évangile à ces gens-là. Mais toi qui as reçu la parole, qui dit que tu n'as rien pour être une source de bénédiction, toi qui dis que tes enfants ne marchent pas à la maison, toi qui dis que tu n'as pas un toit pour dormir, toi qui dis que tu n'as pas encore tel, toi qui dis que tu n'as pas encore atteint un certain niveau, toi qui dis je n'ai pas ci, toi qui dis je n'ai pas de l'argent, toi qui dis je n'ai rien, n'as-tu pas le temps d'évangéliser? Encore qu'un chrétien ne peut pas rester standard. Le chrétien doit bouger. Le chrétien doit aller de l'avant. Le chrétien doit mener. Tout ce que le chrétien fait doit être dans la perfection, doit être dans l'évolution chaque fois. Tout ce que nous faisons doit être dans l'évolution. Mais tu dis, je ne peux rien faire. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Sois la source de bénédiction de quelqu'un. Et le Seigneur va t'élever. C'est encore plus large, on va y venir sur des questions. La quatrième clé sur laquelle je pense que nous allons nous arrêter, ou simplement si on a encore un peu de temps, nous pouvons aller au sixième clé. La quatrième clé, c'est la semence ou le don sacrificiel. J'ai dit que tu dois être une source de bénédiction. Ça veut dire que tu dois semer dans la vie des autres. Maintenant, je te dis que la quatrième clé, c'est la semence. Ou le don sacrificiel. C'est quoi? Quand on parle, le don sacrificiel, en fait, c'est quoi? C'est une offrande sacrificielle qui attire la faveur de Dieu dans votre vie, comme David qui était déterminé à donner à Dieu quelque chose qui lui coûtait cher. une offrande sacrificielle ou un don sacrificiel ou la semence. Oui, David voulait construire le temple de Dieu. Et Dieu a dit à David, ce n'est pas à toi de me construire le temple. C'est à ton fils Salomon de me construire le temple. Et c'est en cela que je disais, aujourd'hui, nous ratons notre vision, notre but, le don que le Seigneur a mis en nous, l'appel que le Seigneur nous a donné, nous oublions cet appel-là et nous regardons l'appel qui est sur la vie des autres et nous voulons le faire. Tout le monde n'a pas construit le temple. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans tout Cotonou, tous les serviteurs de Dieu sont préoccupés pour construire la plus belle temple, le plus beau temple de Cotonou. Des gens veulent qu'on puisse dire au moins, bon, c'est lui qui a le temple climatisé, le plus grand. Quand tu vas dans son temple, je te dis, il y a de l'or, on fait quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans les choses qui frappent à l'œil. Et comme on dit, je caricature un peu en fond, on dit, il y a Rwamboro, Sewa Noa Siton, nous sommes en Ewenoa, ils ont Sea. C'est ce que l'Éternel te commande, c'est ça que tu dois faire. Et c'est pourquoi il faut demander au Seigneur, quel est mon appel? À quoi je sers dans ta maison? Si tu veux savoir, tu dis par exemple, moi je ne sais pas, je sens que je suis prophète, mais comment j'ai fait pour commencer par prophétiser? Non. Je sens que j'ai l'appel d'être pasteur. Comment je fais pour devenir pasteur demain? Non. Ce n'est pas l'école biblique qui fera de toi un pasteur. L'école biblique forme des bibliquins. Des hommes qui récitent la Bible. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est des hommes qui récitent la Bible que l'école biblique fait. Et ils ont leur tête, leur cerveau est là pour bûcher les versets et ne pas les pratiquer. Non, ce n'est pas l'école biblique qui fera de toi, qui fera de toi une source de bénédiction ou qui te donnera la semence. Non. Mais demande à Dieu, quelle est ta vision pour ma vie? Et quand vous regardez, par exemple, quelqu'un qui... Je prends le cas de Joseph. Joseph est un grand financier. Pas Joseph, le mari de Marie, Marie, la mère porteuse. Non. Mais Joseph qui a été vendu, le fils de Jacob qui a été vendu, il était en Égypte un grand économiste, un grand financier. Et il sait comment faire pour qu'au temps de la disette, le peuple d'Égypte ne souffre pas, l'Éternel le lui a révélé. Quand vous regardez la vie de certaines personnes, ce qu'ils ont déjà vécu avant de connaître Christ, c'est souvent l'appel que Christ met sur leur vie. Quand vous voyez quelqu'un qui a souffert des problèmes conjugaux, l'Éternel t'a fait passer par là pour que tu puisses donner des conseils, prier, intercéder et aider ceux qui sont dans ce cas-là. Quand je prends le cas de notre papa John Megan, qui témoigne chaque fois, il dit, avant j'étais un musicien du monde, avant j'étais un drogué, je ne connaissais pas Christ, je me promenais de bar en bar. Mais aujourd'hui, il a un grand ministère pour aider les drogués. Quand par exemple, tu es une ancienne prostituée, c'est ta vie ancienne, parce que toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Tu connais Christ. Christ t'a restauré. Maintenant, tu marches dans la vérité. Tu dois connaître la mentalité des prostituées afin de leur annoncer l'évangile. Ce serait plus facile pour toi que celui qui n'a jamais été prostitué. Et le Seigneur a fait quelque chose dans la vie d'un frère qui est dans les commandos de Jésus. Il dit, j'étais un grand voleur. J'étais un grand gaïman. Et les gens m'appelaient Azeto. Parce que lui, il avait le feeling, il avait la tête pour imaginer tout ce qu'il faut pour voler. Et il dit, il ne ratait pas ses cibles. S'il rate sa cible, c'est que vraiment, celui-là a quelque chose de très, très grand plus que lui. Et rares sont les cibles qu'il a ratées. Mais aujourd'hui, quand vous voyez cette personne-là qui est passée au pied de la croix, cette personne que Christ a rencontrée, dans sa vie, le Seigneur a tout restauré, a tout changé. Mais il n'a pas appris la technique. Mais quand vous le voyez manipuler les consoles, vous allez croire qu'il est allé dans une école du genre. Quand je vois cette personne passer 2 heures de temps à chercher une panne électrique, alors qu'il n'a jamais fait l'électricité à l'école, Dieu est passé par là. Quand je le vois faire des choses extraordinaires, je sais que Dieu est passé par là. Mais quand cette personne-là a reçu l'évangile du Seigneur, est rentrée dans les grâces de l'Éternel qui attire la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, maintenant, est sur sa vie, qui rayonne sur sa vie. Quand il détient cette clé, il pourra évangéliser un gaïman. Parce qu'il était un ancien gaïman, quand il va appeler un gaïman, il est obligé de s'arrêter parce qu'il se dit, il va penser qu'il était toujours la même personne. Mais, malheureusement ou heureusement pour lui, quand il viendra, il lui dira, mon frère, voici les raisons pour lesquelles je suis parti. Il peut rendre ministère là dans la vie de cet homme. Le don sacrificiel, l'offrande sacrificielle ou la semence, c'est de donner quelque chose à Dieu qui vous coûte cher. Quand on parle, par exemple, d'action de grâce dans nos églises, beaucoup sont ceux-là, ils disent, bon, peut-être qu'il a un bénéfice de 100 000 francs l'année, il prélève juste 20 000, il vient faire l'action de grâce à Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, il ne fait rien, il a son temps, mais il attend le dimanche pour venir écouter la parole de Dieu. Il ne veut rien sacrifier à Dieu. L'offrande sacrificielle ou le don sacrificiel, ce qu'on appelle la semence, c'est donner quelque chose qui vous fait mal, quelque chose dont vous avez du mal à vous séparer. Mais pour Dieu, vous le faites. C'est ça ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Vous sacrifiez quelque chose pour le Seigneur. C'est pourquoi David dit, je ne veux rien donner au Seigneur qui ne me coûte rien du tout. Je refuse. Il dit non, tout ce que je veux donner au Seigneur, je veux que ce soit des choses qui me coûtent quelque chose. Je veux pouvoir dire, le dimanche j'ai envie de dormir. Quand je prends mon cas, j'ai envie de dormir le dimanche. Parce que du lundi jusqu'au samedi, je travaille. Je n'ai que les dimanches pour me reposer un peu. Mais le dimanche, toi, j'ai envie de prolonger encore mon doux sommeil que j'ai entamé dans l'après-midi. Mais je suis obligée de me lever, de sacrifier mon temps pour le Seigneur, pour venir enseigner ceux qui n'ont pas encore reçu la vraie parole. Ou ceux qui veulent apprendre à connaître davantage le Seigneur. Ceux qui veulent faire sa volonté. Je fais une offrande sacrificielle. Parce que si c'était à choisir, si ce n'était pas pour Dieu, je pense que je serais en train de dormir. Quand je regarde les mercredis matins, où à 8 heures, je dois être à l'école de prospérité, alors que la veille, je suis rentrée à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, je me lève. Non pas pour ceux-là qui viennent s'asseoir à l'école de prospérité. Non, je suis en train de faire une offrande sacrificielle de mon temps à Dieu. Quand quelqu'un veut entreprendre quelque chose, quelqu'un a des difficultés, quelqu'un a des problèmes, et le Seigneur guide ses pas vers moi. Quand je reçois la conviction du Saint-Esprit que je dois l'aider, je dois lui donner quelque chose, même si cet argent sert à quelque chose, même si ça doit me faire mal, je m'en sépare et je le lui donne. Et je sème dans sa vie. Et le Seigneur permettra que je récolte les fruits de cette semence que j'ai déjà enfouie dans la terre fertile que cette personne-là est. D'autres vont me dire, je n'ai pas de dîme à donner, je n'ai pas d'offrande, je ne travaille pas. L'offrande et la dîme peuvent être en argent, mais ça peut être en temps, comme je l'ai dit. Ça peut être dans ce que tu sais faire. Donne quelque chose, la dixième partie de quelque chose au Seigneur. L'offrande sacrificielle. Quand j'ai quelque chose que je peux, c'est-à-dire me séparer de cette chose-là, je souffre. Mais quand je me rappelle que c'est dans le trésor de Dieu que je veux l'amasser, je le fais. C'est ce qu'on appelle le don sacrificiel. Ça n'a rien à voir avec l'escroquerie de certaines personnes qui vous disent, donnez, déposez 500 000 francs, vous allez recevoir l'onction. Déposez 2 millions, vous allez recevoir l'onction. Déposez 100 000 francs, vous allez recevoir l'onction. Ce n'est pas de cette offrande sacrificielle que je parle. Mais l'offrande sacrificielle dont je parle, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Quand je prends, par exemple, le cas du Club Jésus pour réussir, Si vous voulez faire une offrande sacrificielle, c'est à vous de voir. Ce que vous venez recevoir ici gratuitement, personne ne vous demande de l'argent pour le faire. Mais nous, nous sacrifions alors nos sous. Nous faisons une offrande sacrificielle au Seigneur pour prendre de ce qu'il nous a donné, pour prendre de la dixième partie de nos revenus, pour semer dans vos vies. Du coup, le Seigneur ne peut pas rester indifférent à ce sacrifice-là, nous allons récolter. Et c'est pourquoi quand les gens disent, non, Guy Debila, c'est sûr qu'il a d'autres boulots à part, il fait telle chose. Il y a même des gens qui me disent, est-ce qu'il ne fait pas la drogue? J'ai ri. Et je dis, c'est la grâce de Dieu. On appelle ça la gloire de Dieu qui reflète sur sa vie. On appelle ça la faveur divine. Quand vous avez la faveur divine sur vous, ça dit, vous marchez dans une gloire que les hommes ne peuvent jamais comprendre. Les choses changent dans votre vie. C'est plus facile pour vous de tout faire. Et les gens pensent que vous avez un grand puits de fortune dans votre maison dans lequel vous puisez. Oui, c'est le puits du trésor divin qui est dans votre maison. Parce que la faveur est sur vous. Parce que le ciel est ouvert sur votre tête. Et en matière de semences, on ne va pas lire parce qu'on n'a plus assez de temps. On va lire aussi dans le livre de 2 Samuel 24, versets 22 à 24. Deuxième livre de Samuel, 2 Samuel 24, du verset 22 au 24. Genèse 22, versets 9 à 18. Genèse 22, versets 9 à 18. Et Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. La cinquième clé, l'avant-dernière clé, c'est la communion avec Dieu. Cherchez et restez dans la présence de Dieu à tout moment, frère. Parce que la présence de Dieu est remplie d'onction. La présence de Dieu est remplie de faveur. La présence de Dieu est remplie de bénédiction. La présence de Dieu, dans sa présence, il y a tout. Dans sa présence, l'onction brise les jougs. Et là, vous recevez la puissance. C'est-à-dire, vous rentrez dans Jéricho. Vous pouvez accéder maintenant à Jéricho. Les murailles sont écroulées dans la présence de Dieu. Et vous pouvez maintenant conquérir contrée par contrée, clé par clé, ce qu'il faut pour entrer dans la faveur divine. La communion avec Dieu, c'est développer une alliance personnelle avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas tenir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et vous invoquez la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une douce présence. Je ne savais pas comment la présence de Dieu se manifestait. Je ne savais pas comment on entre dans la présence de Dieu. Mais j'aspirais à rester dans la présence de Dieu. Jusqu'au moment où mon mentor spirituel, le pasteur Mamadou Karambiri, le docteur Mamadou Karambiri, il m'a expliqué à Ouaga comment est-ce qu'on rentre dans la présence de Dieu. Quand je l'ai expérimenté, mon frère, ma soeur, je peux te dire que cette présence me comble de toutes choses. Dans la présence de Dieu, quand vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, c'est différent de la prière. Dans la présence de Dieu, on ne prie pas. Dans la présence de Dieu, on ne demande pas. Dans la présence de Dieu, on ne parle pas. Mais dans la présence de Dieu, on attend pour recevoir des instructions de Dieu. Quand vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, c'est bon de rester quelque part où vous voulez, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre bureau, mais dans un lieu où personne ne peut vous déranger. Et quand vous rentrez maintenant dans ce lieu saint, dans ce lieu secret où personne ne peut vous déranger, vous ouvrez votre bouche, vous commencez par adorer Dieu. Adorer Dieu dans ce cas, ce n'est pas dire, Seigneur, oui, je sais que tu m'as fait. Ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas l'action de grâce. Mais adorer Dieu, contempler l'immensité de sa grandeur, contempler sa puissance, contempler ce qu'il est, contempler son royaume souverain, contempler sa gloire. Et tu l'invites à entrer maintenant là où tu es dans ton lieu secret. Et tu commences par appeler la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et tu te concentres rien que sur sa présence. Mais quand tu te concentres comme ça, du coup, il y a comme une fraîche rosée qui envahit la salle. Et si simplement vous pouvez, vous avez déjà reçu le don du Saint-Esprit pour parler en langue. Quand vous rentrez dans ce lieu secret, parlez en langue parce que c'est la langue plutôt que Dieu comprends. C'est le langage de Dieu. Même toi qui parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis des mystères avec Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Personne, ni physique, ni spirituel, ne peut comprendre le parler en langue, si ce n'est Dieu lui-même. C'est la langue qu'il parle, c'est le langage de Dieu. Quand vous commencez par prier en langue, vous allez sentir une douce brise qui rentre dans votre chambre. Et si vous ne comprenez pas, on a tendance, on est effrayé et on a envie d'ouvrir les yeux parce que c'est comme pour vous, quelque chose est rentré, un esprit est rentré. La présence glorieuse de Dieu est rentrée. La Bible dit que personne ne peut regarder droit comme ça les yeux de l'Éternel parce qu'elle brille de gloire, elle scintille de gloire. Quand nous regardons Jean, dans sa révélation reçue, il était obligé de se prosterner devant Dieu. Il ne pouvait pas lever les yeux pour le regarder. Sa gloire est immense. Alors du coup, quand sa présence vient dans votre lieu secret, cette présence vous envahit. Vous sentez l'arrivée de quelqu'un. C'est pourquoi David va dire, porte et levez vos linteaux, afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Quand le roi de gloire fait son entrée, quelque chose se passe. Quand le roi de gloire fait son entrée, attention, les choses bougent. Quand le roi de gloire fait son entrée, prosternez-vous dans votre lieu secret. Prosternez-vous. N'ouvrez pas vos yeux pour être déconcentrés. Gardez vos yeux fermés. Prosternez-vous. Et commencez par dire merci à l'Éternel pour sa présence au milieu de vous. Et dites-lui, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Qu'est-ce que Marie a dit? Parle, je ne suis que la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa parole. Dis, parle, ton serviteur t'écoute. Quand Samuel, l'esprit, la présence de Dieu était arrivée dans la chambre de Samuel, Samuel était tout petit, il ne comprenait pas la présence de Dieu, mais il entendait quelqu'un l'appeler. Et quand il est parti voir Élie, il dit, papa Élie, m'as-tu appelé? Papa Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais j'ai entendu quelqu'un appeler Samuel. Il revient une deuxième fois, il dit, papa Élie, tu m'as appelé? Papa Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Mais pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, j'ai entendu quelqu'un appeler Samuel. Et l'ancienneté et la maturité spirituelle de papa Élie, il a fait qu'il a compris que c'était la présence divine qui était là et qui appelait Samuel. Il dit, va, retourne. Et si tu entends encore cette voix t'appeler, dis, parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. C'est ainsi que quand tu demandes la présence de Dieu, le simple fait de rester dans sa présence sans parler. Dans la présence de Dieu, on ne demande pas les choses. Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, fais-moi ça. Non, dans la présence de Dieu, on est calme et on l'écoute. Dans sa présence, quand tu sens sa présence entrer dans ta chambre, dis-lui, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Et je suis attentif à ce que tu me dis. Et quand tu commences par écouter la voix de Dieu, cette voix qui parle à ton esprit, cette voix qui parle à ton cœur, qui te donne la paix du cœur, qui te donne une certaine assurance, c'est ainsi que le Seigneur est en train de te parler. Tes idées iront vers des choses que tu ne connaissais pas. Le Seigneur est en train de te parler. Dans sa présence, il peut te donner une révélation sur quelque chose. Dans sa présence, il peut te révéler toutes sortes de choses. Il peut te donner des directives pour ta vie, pour tes affaires et toutes sortes de choses qu'il veut te donner. C'est pourquoi il est essentiel de développer cette communion-là avec Dieu. C'est la cinquième clé pour avoir la faveur divine. C'est-à-dire, si tu n'es pas ami de Dieu, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas une source de bénédiction, si tu ne te sacrifies pas pour Dieu, tu ne peux pas arriver à la communion avec lui. Parce que c'est ayant fait toutes ces étapes-là que tu entres maintenant en communion avec Dieu. Si, par exemple, un homme qui te rencontre en ville, s'il ne devient pas ami avec toi, une relation ne peut pas naître. C'est parce qu'il t'a parlé. Tu es d'accord, tu as foi en lui. Et maintenant, tu acceptes qu'une relation est née. Quand cette relation est née, c'est que l'un fait quelque chose pour l'autre, l'autre aussi fait quelque chose. Chacun cède dans cette relation amicale qui naît. Et cette relation grandit. cette relation grandit. On commence par sacrifier des choses pour cette personne. Quand une relation est née, cette personne te dit, « Ah, vraiment, moi, j'aime pas que tu mènes telle vie. Si réellement tu veux être mon épouse, si réellement tu veux être mon époux, il va falloir abandonner ça. Si réellement tu aimes la personne, tu es obligé d'abandonner ça. » Là, tu fais le sacrifice. Et quand on aime quelqu'un, on est ami à quelqu'un, on lui fait du bien. Et c'est quand on franchit ces étapes-là de la relation et que cela passe par les fiançailles et vous arrivez au mariage maintenant, vous rentrez dans la communion. Vous vivez à deux. Et dans cette communion, beaucoup de choses se passent. Dans cette communion, dans cette alliance, c'est le moment où vous connaissez encore plus l'être aimé, celui avec qui vous voulez partager votre vie. C'est cette communion-là que Dieu veut que nous développions avec lui. Et pour finir, nous allons parler de la sixième clé qui est la prière. Je sais que parce que je parlais des clés, beaucoup vont penser que j'allais commencer par la prière. Non, la prière est comme une pluie qui arrose nos semences. Si tu n'as rien semé, tu vas prier, mais rien ne se passera. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont là, jeûnent, prient. Ils sont chrétiens depuis 25 ans. Ils ont jeûné pendant 25 ans parce que chaque année, ils jeûnent. Mais rien ne s'est passé. Ils sont chrétiens depuis des années. Ils vont à toutes les veillées de prière, mais rien ne change dans leur vie. Ils sont chrétiens du jeune âge jusqu'à ce qu'ils ont vieilli avec leur Bible dans les aisselles. Ils servent même à l'église. C'est eux qui nettoient l'église. C'est lui qui parle devant l'assemblée. C'est lui qui garde les offrandes. C'est lui qui est le premier. Si on ne le voit pas, l'église n'ouvre pas les portes. Mais rien n'a changé dans sa vie. Pourquoi? Il est chrétien, c'est lui qui est devant les veillées de prière. C'est lui qui dirige les veillées de prière. C'est lui qui dirige le groupe musical. C'est lui qui fait toutes choses. Même quand on dit évangélisation, là, il est devant. Si on ne le voit pas, on ne peut pas aller à l'évangélisation. Mais rien ne change dans sa vie. Sa vie n'est pas un exemple. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que la prière est comme une pluie qui vient arroser des semences. Il n'a rien semé, mais il réclame la pluie. Quand la pluie va venir, il n'y aura que de l'inondation. Et alors, on va commencer par faire des campagnes d'inondation. Quand la pluie va venir, il n'y a rien qui puisse recevoir cette fraîche rosée-là pour grandir. La prière est simplement une pluie qui arrose nos semences. C'est elle qui nous amène dans la présence de Dieu. C'est la prière qui nous amène dans la semence de Dieu. Parce que vous avez appris à prier. Vous commencez par prier. Vous avez maintenant envie de connaître davantage Dieu. Et c'est cette prière-là qui nous amène dans cette communion. C'est parce que nous sacrifions déjà nos temps pour demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Seigneur, voici tel. Seigneur, voici ça. Comment je peux le faire? Que ton esprit me conduise. Et nous prions par l'esprit. Parce que la Bible dit que ce n'est pas des soupirs inexprimables que l'Esprit Saint intercède pour nous. L'Esprit Saint donne des révélations pendant que vous êtes en train de prier. Et ça peut vous aider à développer une communion avec Dieu. Alors, la prière développe aussi notre amitié avec Jésus. Parce que j'ai dit la première clé, c'est devenir ami de Jésus-Christ, amitié avec Jésus-Christ. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas vouloir l'aider. C'est parce qu'on rencontre quelqu'un chaque fois, parce qu'on connaît la personne, que lorsqu'il nous parle, on est d'accord pour entrer en amitié avec cette personne. Un inconnu qui vient devant vous, qui dit, bon, je veux que nous soyons amis. Est-ce que vous serez d'accord? On va dire, non, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Ou carrément, on peut dire, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Parce que vous ne connaissez pas la personne. Mais quelqu'un que vous rencontrez, que vous connaissez, que vous voyez agir chaque fois, lorsqu'il vous demande une amitié, vous êtes d'accord. Ça développe même l'amitié. Maintenant, même si ce n'est pas l'amitié de façon intime, lorsque vous vous fréquentez, vous êtes dans la même église, vous vous fréquentez souvent, il y a beaucoup qui développent des liens d'amitié. Qui vont, bon, je vais chez tel frère, je vais chez telle sœur, je veux demander tel service à telle personne. Le lien fraternel amène aussi dans les liens amical. Alors, je peux dire que c'est la prière qui nous donne cette amitié-là. La prière nous fait aimer la parole de Dieu. Parce que pour prier, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas prier comment? Tu ne feras que demander à Dieu. Tu pries sur quoi? La parole de Dieu est pour nous notre incantation. Ce qu'on appelle en fond, Bessissa. La parole de Dieu, c'est notre incantation. Et quand nous voulons parler, comme les féticheurs, n'importe où, ils veulent faire quelque chose à quelqu'un, ils veulent faire leur portion magique ou je ne sais quoi, ils prononcent des incantations. Alors la prière pour nous, c'est notre incantation. C'est là où on commence par dire, il est écrit que. Et quand tu commences par prononcer cette parole, parce que ce n'est pas des paroles viles, c'est des paroles saintes, c'est des paroles qui ont de l'autorité, c'est des paroles qui agissent. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu ne sort jamais sans accomplir l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Elle va s'accomplir certainement. La parole de Dieu est pour nous notre arme en tant que chrétien. Et c'est la prière qui nous enseigne la sanctification. Parce que nous connaissons la prière, nous enseigne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne la sanctification. Et lorsque nous sommes là, dans la prière, nous voulons être saints. Nous voulons mener une vie de sainteté. Nous voulons que nos prières montent vers le Seigneur. Et la semence, et comment être une source de bénédiction, tout cela est dans la prière. La sixième clé, c'est la prière. Alors, si vous voulez maintenant avoir la faveur divine dans votre vie, si vous voulez que la main de l'Éternel soit sur votre vie, si vous voulez que partout vous passez, que le ciel soit ouvert sur votre tête, si le ciel est ouvert sur votre tête, ça veut dire simplement que vous bénéficiez de toutes sortes de bénédictions de l'Éternel. Si vous voulez ça, vous devez apprendre à utiliser ces six clés-là qui vont vous amener à avoir la manifestation de cette faveur divine dans votre vie. Et je pense que nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui et recevoir vos questions auxquelles nous allons répondre. Et on reviendra sur le reste de l'enseignement le jeudi prochain à partir de 19h comme d'habitude. Et la deuxième heure est prévue pour le baptême. Et avant d'aller rapidement à la fin parce que nous avons 2 heures de temps, je voulais parler du baptême. Si quelqu'un a pris l'engagement de passer dans les eaux du baptême, je pense que déjà le mercredi, au lieu de commencer par l'école des fondements, nous allons commencer par l'école du baptême pour achever sur l'école des fondements. Que le Seigneur vous bénisse.